Chapitre 6. À la mort de son père, Jacques, âgé de 37 ans, était aussi timide et soumis à la discipline paternelle que peut l'être un enfant de 12 ans. Cette timidité doit expliquer son enfance, sa jeunesse et sa vie à ceux qui ne voudraient pas admettre ce caractère ou les faits de cette histoire, hélas, bien commun partout, même chez les princes, car Sophie Dawes fut prise par le dernier des Condés dans une situation pire que celle de la Rabouilleuse. Il y a deux timidités, la timidité d'esprit, la timidité de nerfs, une timidité physique et une timidité morale. L'une est indépendante de l'autre. Le corps peut avoir peur et trembler, pendant que l'esprit reste calme et courageux, et vice-versa. Ceci donne la clé de bien des bizarreries morales. Quand les deux timidités se réunissent chez un homme, il sera nul pendant toute sa vie. Cette timidité complète est celle des gens dont nous disons « C'est un imbécile ». Il se cache souvent dans cet imbécile de grandes qualités comprimées. Peut-être devons-nous à cette double infirmité quelques moines qui ont vécu dans l'extase. Cette malheureuse disposition physique et morale est produite aussi bien par la perfection des organes et par celle de l'âme que par des défauts encore inobservés. La timidité de Jean-Jacques venait d'un certain engourdissement de ses facultés qu'un grand instituteur ou un chirurgien comme Desplein eussent réveillé. Chez lui, comme chez les crétins, le sens de l'amour avait hérité de la force et de l'agilité qui manquaient à l'intelligence, quoiqu'il lui restât encore assez de sens pour se conduire dans la vie. La violence de sa passion, dénuée de l'idéal où elle s'épanche chez tous les jeunes gens, augmentait encore sa timidité. Jamais il ne put se décider, selon l'expression familière, à faire la cour à une femme à Issoudun. Or, ni les jeunes filles, ni les bourgeoises ne pouvaient faire les avances à un jeune homme de moyenne taille, d'attitude pleine de honte et de mauvaise grâce, à figure commune, que deux gros yeux d'un vert pâle et saillant eussent rendu assez laide si déjà les traits écrasés et un teint blafard ne le vieillissaient avant le temps. La compagnie d'une femme annulait en effet ce pauvre garçon qui se sentait poussé par la passion si violemment qu'il était retenu par le peu d'idées dues à son éducation. Immobile entre deux forces égales, il ne savait alors que dire et tremblait d'être interrogé tant il avait peur d'être obligé de répondre. Le désir qui délie si promptement la langue lui glaçait la sienne. Jean-Jacques resta donc solitaire et rechercha la solitude en ne s'y trouvant pas gêné. Le docteur aperçut trop tard pour y remédier les ravages produits par ce tempérament et par ce caractère. Il aurait bien voulu marier son fils, mais comme il s'agissait de le livrer à une domination qui deviendrait absolue, il dut hésiter. N'était-ce pas abandonner le maniement de sa fortune à une étrangère, à une fille inconnue? Or, il savait combien il est difficile d'avoir des prévisions exactes sur le moral de la femme en étudiant la jeune fille. Aussi, tout en cherchant une personne dont l'éducation ou les sentiments lui offrissent des garanties, essaya-t-il de jeter son fils dans la voie de l'avarice? À défaut d'intelligence, il espérait ainsi donner à ce niais une sorte d'instinct. Il l'habitua d'abord à une vie mécanique et lui légua des idées arrêtées pour le placement de ses revenus. Puis il lui évita les principales difficultés de l'administration d'une fortune territoriale en lui laissant des terres en bon état et louées par de longs baux. Le fait qui devait dominer la vie de ce pauvre être échappa seulement à la perspicacité de ce vieillard si fin. La timidité ressemble à la dissimulation, elle en a toute la profondeur. Jean-Jacques aima passionnément la Rabouilleuse. Rien de plus naturel d'ailleurs. Flore fut la seule femme qui resta près de ce garçon, la seule qu'il put voir à son aise en la contemplant en secret, en l'étudiant à toute heure. Flore illumina pour lui la maison paternelle. Elle lui donna, sans le savoir, les seuls plaisirs qui lui dorèrent sa jeunesse. Loin d'être jaloux de son père, il fut enchanté de l'éducation qu'il donnait à Flore. Ne lui fallait-il pas une femme facile et avec laquelle il n'eut pas de cours à faire? La passion, qui, remarquez-le, porte son esprit avec elle, peut donner aux niais, aux sots, aux imbéciles, une sorte d'intelligence, surtout pendant la jeunesse. Chez l'homme le plus brut, il se rencontre toujours l'instinct animal dont la persistance ressemble à une pensée. Le lendemain, Flore, à qui le silence de son maître avait fait faire des réflexions, s'attendit à quelques communications importantes. Mais, quoiqu'il tournât autour d'elle, elle la regarda sournoisement avec des expressions de concupiscence. Jean-Jacques ne sut rien trouver à dire. Enfin, au moment du dessert, le maître recommença la scène de la veille. « Vous vous trouvez bien ici ?» dit-il à Flore. Oh « Oui, monsieur Jean. Eh bien, restez-y. Oh, merci, monsieur Jean. » Cette situation étrange dura 3 semaines. Par une nuit où nul bruit ne troublait le silence, Flore, qui se réveilla par hasard, entendit le souffle égal d'une respiration humaine à sa porte et fut effrayée en reconnaissant sur le palier Jean-Jacques, couché comme un chien, et qui sans doute avait fait lui-même un trou par en bas pour voir dans la chambre. Il m'aime, pensa-t-elle, mais il attrapera des rhumatismes à ce métier-là. Le lendemain, Flore regarda son maître d'une certaine façon. Cet amour muet, presque instinctif, l'avait ému. Elle ne trouva plus si laid ce pauvre enfant niais dont les tempes et le front, chargés de boutons semblables à des ulcères, portaient cette horrible couronne attribuée des sangs gâtés. Vous ne voudriez pas retourner au champ, n'est-ce pas ? Lui dit Jean-Jacques quand ils se trouvèrent seuls. « Pourquoi me demandez-vous cela ? » dit-elle en le regardant. « Pour le savoir, » fit Rouget en devenant de la couleur des homards cuits. « Est-ce que vous voulez m'y renvoyer ? » demanda-t-elle. « Oh non, mademoiselle. Eh bien, que voulez-vous donc savoir ? Vous avez une raison. » « Oui, je voudrais savoir quoi ?» dit Flore. Bon, « Vous ne me le diriez pas, » fit Rouget. « Oh, si, foi d'honnête fille !»« Voilà, » reprit Rouget effrayé, « vous êtes une honnête fille. Pardon, là, vrai, mais quand je vous le dis ?»« Voyons, êtes-vous la même quand... » que quand vous étiez là, pieds nus, amené par votre oncle ? Belle question, ma foi, répondit Flore en rougissant. L'héritier atterré baissa la tête et ne la releva plus. Flore, stupéfaite de voir une réponse si flatteuse pour un homme, accueillie par une semblable consternation, se retira. 3 jours après, au même moment, car l'un et l'autre ils semblaient se désigner le dessert comme leur champ de bataille, Flore dit la première à son maître « Est-ce que vous avez quelque chose contre moi ?»« Oh non, mademoiselle, répondit-il, non. » Une pause. « Non, au contraire. Vous avez paru contrarié hier de savoir que j'étais une honnête fille. » « Non, 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 je voulais seulement en savoir. » Autre pause. « Mais vous ne me le diriez pas. »« Ma foi, reprit-elle, je vous dirai toute la vérité. »« Toute la vérité sur mon père ? » demanda-t-il d'une voix étranglée. Votre père, dit-elle en plongeant son regard dans les yeux de son maître, était un brave homme. Il aimait à rire, quoi, un brin. Mais, pauvre cher homme, c'était pas la bonne volonté qui lui manquait. Enfin, rapport à je ne sais quoi contre vous, il avait des intentions. Oh, de tristes intentions. Souvent, il me faisait rire, quoi, voilà. Après. Eh bien, Flore, dit l'héritier en prenant la main de la rabouilleuse, puisque mon père ne vous était de rien, et de quoi voulez-vous qu'il me fût ? S'écria-t-elle en fille offensée d'une supposition injurieuse. Eh bien, écoutez donc, mais il était mon bienfaiteur, voilà tout. Oh, il aurait bien voulu que je fusse sa femme, mais... Mais, dit Rouget, en reprenant la main que Flore lui avait retirée, puisqu'il ne vous a rien été, vous pourriez rester ici avec moi ? Si vous voulez, répondit-elle en baissant les yeux. Non, 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 si vous vouliez, vous, reprit Rouget. Oui, vous pouvez être la maîtresse. Tout ce qui est ici sera pour vous, vous y prendrez soin de ma fortune, elle sera quasiment la vôtre. Car je vous aime, je vous ai toujours aimé, depuis le moment où vous êtes entré ici, là, pieds nus. Flore ne répondit pas. Quand le silence devint gênant, Jean-Jacques inventa cet argument horrible. « Voyons, cela ne vaut-il pas mieux que de retourner au champ ?» lui demanda-t-il avec une visible ardeur. « Oh, dame, monsieur Jean, comme vous voudrez, » répondit-elle. Néanmoins, malgré ce « comme vous voudrez », le pauvre Rouget ne se trouva pas plus avancé. Les hommes de ce caractère ont besoin de certitude. L'effort qu'ils vont en affouant leur amour est si grand et leur coup de temps qu'ils se savent hors d'état de le recommencer. De là vient leur attachement à la première femme qui les accepte. On ne peut présumer les événements que par le résultat. 10 mois après la mort de son père, Jean-Jacques changea complètement. Son visage, pâle et plombé, dégradé par des boutons aux tempes et au front, s'éclaircit, se nettoya, se colora de teintes rosées. Enfin, sa physionomie respira le bonheur. Flore exigea que son maître prît des soins minutieux de sa personne. Elle mit son amour-propre à ce qu'il fût bien mis. Elle le regardait, s'en allant à la promenade, en restant sur le pas de la porte, jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus. Toute la ville remarqua ces changements, qui firent de Jean-Jacques un tout autre homme. « Savez-vous la nouvelle ?» se disait-on dans Issoudun. « Eh bien quoi ? Ben Jean-Jacques a tout hérité de son père, même la rabouilleuse !» Mais est-ce que vous ne croyez pas en feu, le docteur assez malin pour avoir laissé une gouvernante à son fils ? Mais c'est un trésor pour Rouget, c'est vrai, fut le cri général. C'est une finaude, elle est bien belle, elle se fera épouser. Oh, cette fille-là a-t-elle eu de la chance ? Oh, c'est une chance qui n'arrive qu'aux belles filles. Ah, ben vous croyez cela, mais j'ai eu mon oncle Bornichérot, eh bien... Vous avez entendu parler de mademoiselle Ganivet. Elle était laide comme les 7 péchés capitaux. Elle n'en a pas moins eu de lui 1000 écus de rente. Bah, c'était en 1778. C'est égal, Rouget a tort. Son père lui laisse 40 livres de rente. Il aurait pu se marier avec mademoiselle Hérault. Mais le docteur a essayé, elle n'a pas voulu. Rouget est trop bête. Trop bête, oh, les femmes sont bien heureuses avec les gens de cet acabit. Votre femme est-elle heureuse ? Tel fut le sens des propos qui coururent dans Issoudun. Si l'on commença, selon les us et coutumes de la province, par rire de ce quasi-mariage, on finit par louer Flore de s'être dévouée à ce pauvre garçon. Voilà comment Flore Brazier parvint au gouvernement de la maison Rouget, de père en fils, selon l'expression du père Godet. Maintenant, il n'est pas inutile d'esquisser l'histoire de ce gouvernement pour l'instruction des célibataires. La vieille Fanchette fut la seule dans Issoudun à trouver mauvais que Flore Brazier devint la reine chez Jean-Jacques. Elle protesta contre l'immoralité de cette combinaison et prit le parti de la morale outragée. Il est vrai qu'elle se trouvait humiliée à son âge d'avoir pour maîtresse une rabouilleuse, une petite fille venue pieds nus dans la maison. Fanchette possédait 300 francs de rente dans les fonds, car le docteur lui avait fait ainsi placer ses économies. Feu monsieur venait de lui léguer 100 écus de rente viagère, elle pouvait donc vivre à son aise, et elle quitta la maison 9 mois après l'enterrement de son vieux maître, le 15 avril 1806. Cette date n'indique-t-elle pas aux gens perspicaces l'époque à laquelle Flore cessa d'être une honnête fille? La rabouilleuse, assez fine pour prévoir la défection de Fanchette, car il n'y a rien comme l'exercice du pouvoir pour vous apprendre la politique, avait résolu de se passer de servante. Depuis 6 mois, elle étudiait, sans en avoir l'air, les procédés culinaires qui faisaient de Fanchette un cordon bleu digne de servir un médecin. En fait de gourmandise, on peut mettre les médecins au même rang que les évêques. Le docteur avait perfectionné Fanchette. En province, le défaut d'occupation et la monotonie de la vie attirent l'activité de l'esprit sur la cuisine. On ne dîne pas aussi luxueusement en province qu'à Paris, mais on y dîne mieux. Les plats y sont médités, étudiés. Au fond des provinces, il existe des carêmes en jupons, génies ignorés, qui savent rendre un simple plat de haricots digne du hochement de tête par lequel Rossini accueille une chose parfaitement réussie. En prenant ses degrés à Paris, le docteur y avait suivi les cours de chimie de Rouel et lui en était resté des notions qui tournèrent au profit de la chimie culinaire. Il est célèbre à Issoudun par plusieurs améliorations peu connues en dehors du Berry. Il a découvert que l'omelette était beaucoup plus délicate quand on ne battait pas le blanc et le jaune des œufs ensemble, avec la brutalité que les cuisinières mettent à cette opération. On devait, selon lui, faire arriver le blanc à l'état de mousse, y introduire par degrés le jaune et ne pas se servir d'une poêle, mais d'un cagnard en porcelaine ou de faïence. Le cagnard est une espèce de plat épais qui a 4 pieds, afin que, mis sur le fourneau, l'air en circulant empêche le feu de le faire éclater. En Touraine, le cagnard s'appelle un coquemard. Rabelais, je crois, parle de ce coquemard à cuire les coques cigrues, ce qui démontre la haute antiquité de cet ustensile. Le docteur avait aussi trouvé le moyen d'empêcher l'âcreté des roues, mais ce secret que, par malheur, il restreignit à sa cuisine a été perdu. Flore, née friturière et rôtisseuse, les deux qualités qui ne peuvent s'acquérir ni par l'observation ni par le travail, surpassa Fanchette en peu de temps. En devenant cordon bleu, elle pensait au bonheur de Jean-Jacques, mais elle était aussi, disons-le passablement, gourmande. Hors d'état, comme les personnes sans instruction, de s'occuper par la cervelle, elle déploya son activité dans le ménage. Elle frotta les meubles, leur rendit leur lustre et tint tout au logis dans une propreté digne de la Hollande. Elle dirigea ses avalanches de linge sale et ses déluches qu'on appelle les lessives et qui, selon l'usage des provinces, ne se font que 3 fois par an. Elle observa le linge d'un œil de ménagère et le raccommoda. Puis, jalouse de s'initier par degrés au secret de la fortune, elle s'assimila le peu de science des affaires que savait Rouget et l'augmenta par des entretiens avec le notaire du feu docteur, M. Héron. Aussi donna-t-elle d'excellents conseils à son petit Jean-Jacques. sûre d'être toujours la maîtresse, elle eut pour les intérêts de ce garçon autant de tendresse et d'avidité que s'il s'agissait d'elle-même. Elle n'avait pas à craindre les exigences de son oncle. 2 mois avant la mort du docteur, Brazier était mort d'une chute en sortant du cabaret où depuis sa fortune il passait sa vie. Flore avait également perdu son père. Elle servit donc son maître avec toute l'affection que devait avoir une orpheline heureuse de se faire une famille et de trouver un intérêt dans la vie. Cette époque fut le paradis pour le pauvre Jean-Jacques, qui prit les douces habitudes d'une vie animale embellie par une espèce de régularité monastique. Il dormait la grasse matinée, et Flore, qui dès le matin allait à la provision ou faisait le ménage, éveillait son maître de façon à ce qu'il trouvât le déjeuner prêt quand il avait fini sa toilette. Après le déjeuner, sur les 11 heures, Jean-Jacques se promenait, causait avec ceux qu'il rencontrait, et revenait à 3 heures pour lire les journaux, celui du département et un journal de Paris qu'il recevait 3 jours après leur publication, gradé 30 mains par lesquelles ils avaient passé, sali par les nez à tabac qui s'y étaient oubliés, brunis par toutes les tables sur lesquelles ils avaient traîné. Le célibataire atteignait ainsi l'heure de son dîner et il y employait le plus de temps possible. Flore lui racontait les histoires de la ville, les caquetages qui couraient et qu'elle avait récoltés. Vers 8 heures, les lumières s'éteignaient. Aller au lit de bonne heure est une économie de chandelles et de feu très pratiquée en province, mais qui contribue à l'hébétement des gens par les abus du lit. Trop de sommeil alourdit et encrasse l'intelligence. Telle fut la vie de ces 2 êtres pendant 9 ans. Vie à la fois pleine et vide, où les grands événements furent quelques voyages à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux, ou plus loin, quand ni le notaire de Séville ni M. Héron n'avaient de placements hypothécaires. Rouget prêtait son argent à 5% par première hypothèque, avec subrogation dans les droits de la femme quand le prêteur était marié. Jamais il ne donnait plus du tiers de la valeur réelle des biens, et il se faisait faire des billets à son ordre, qui représentaient un supplément d'intérêt de 2,5% échelonné pendant la durée du prêt. Telles étaient les lois que son père lui avait dit de toujours observer. L'usure, ce rémora mis sur l'ambition des paysans, dévore les campagnes. Ce taux de 7,5% paraissait donc si raisonnable que Jean-Jacques Rouget choisissait les affaires, car les notaires qui se faisaient allouer de belles commissions par les gens auxquels ils procuraient de l'argent à si bon compte prévenaient le vieux garçon. Durant ces 9 années, Flore prit à la longue, insensiblement et sans le vouloir, un empire absolu sur son maître. Elle traita d'abord Jean-Jacques très familièrement, puis, sans lui manquer de respect, elle le prima par tant de supériorité d'intelligence et de force qu'il devint le serviteur de sa servante. Ce grand enfant alla de lui-même au-devant de cette domination en se laissant rendre tant de soins que Flore fit avec lui comme une mère est avec son fils. Aussi Jean-Jacques finit-il par avoir pour Flore le sentiment qui rend nécessaire à un enfant la protection maternelle. Mais il y eut entre eux des nœuds bien autrement serrés. D'abord, Flore faisait les affaires et conduisait la maison. Jean-Jacques se reposait si bien sur elle de toute espèce de question que sans elle la vie lui eût paru non pas difficile mais impossible. Puis cette femme était devenue un besoin de son existence. Elle caressait toutes ses fantaisies, elle les connaissait si bien. Il aimait à voir cette figure heureuse qui lui souriait toujours, la seule qui lui eût souri, la seule où devait se trouver un sourire pour lui. Ce bonheur purement matériel, exprimés par des mots vulgaires qui sont le fond de la langue dans les ménages berrichons, et peints sur cette magnifique physionomie, étaient en quelque sorte le reflet de son bonheur à lui. L'état dans lequel fut Jean-Jacques lorsqu'il vit Flore assombri par quelques contrariétés révéla l'étendue de son pouvoir à cette fille qui, pour s'en assurer, voulut en user. User, chez les femmes de cette sorte, veut toujours dire abuser. La rabouilleuse fit sans doute jouer à son maître quelques-unes de ces scènes ensevelies dans les mystères de la vie privée, et dont Holtway a donné le modèle au milieu de sa tragédie de « Venise sauvée » entre le sénateur et Aquilina, scène qui réalise le magnifique de l'horrible. Flore se vit alors si certaine de son empire qu'elle ne songea pas, malheureusement pour elle et pour ce célibataire, à se faire épouser. Vers la fin de 1815, à 27 ans, Flore était arrivée à l'entier développement de sa beauté. Grasse et fraîche, blanche comme une fermière du Bessin, elle offrait bien l'idéal de ce que nos ancêtres appelaient une belle commère. Sa beauté, qui tenait de celle d'une superbe fille d'auberge, mais agrandie et nourrie, la faisait ressembler, noblesse impériale à part, à Mademoiselle Georges dans son beau temps. Florence avait ses beaux bras ronds, éclatants, cette plénitude de forme, cette pulpe satinée, ses contours attrayants, mais moins sévères que ceux de l'actrice. L'expression de Flore était la tendresse et la douceur. Son regard ne commandait pas le respect, comme celui de la plus belle Agrippine qui, depuis celle de Racine, foulait les planches du théâtre français. Il habitait à la grosse joie. En 1816, la rabouilleuse vit Maxence Gillet et s'éprit de lui à la première vue. Elle reçut à travers le cœur cette flèche mythologique, admirable expression d'un effet naturel que les Grecs devaient ainsi représenter, eux qui ne concevaient point l'amour chevaleresque, idéal et mélancolique enfanté par le christianisme. Flore était trop belle alors pour que Max dédaigna cette conquête. La rabouilleuse connut donc à 28 ans le véritable amour, l'amour idolâtre, infini, cet amour qui comporte toutes les manières d'aimer, celle de Guinard et celle de Médora. Dès que l'officier sans fortune a pris la situation respective de Flore et de Jean-Jacques Rouget, il vit mieux qu'une amourette dans une liaison avec la rabouilleuse. Aussi, pour bien assurer son avenir, ne demanda-t-il pas mieux que de loger chez Rouget, en reconnaissant la débile nature de ce garçon. La passion de Flore influa nécessairement sur la vie et sur l'intérieur de Jean-Jacques. Pendant un mois, le célibataire, devenu craintif outre mesure, vit terrible, morne et maussade, le visage si riant et si amical de Flore. Il subit les éclats d'une mauvaise humeur calculée, absolument comme un homme marié dont l'épouse médite une infidélité. Quand, au milieu des plus cruelles rebuffades, le pauvre garçon s'enhardit à demander à Flore la cause de ce changement, elle lut dans le regard des flammes chargées de haine et dans la voix des tons agressifs et méprisants que le pauvre Jean-Jacques n'avait jamais entendu ni reçu. « Parbleu, dit-elle, vous n'avez ni cœur ni âme. Voilà 16 ans que je donne ici ma jeunesse et je ne m'étais pas aperçu que vous avez une pierre là, » fit-elle en se frappant le cœur. « Depuis 2 mois, vous voyez venir ici ce brave commandant, une victime des Bourbons, qui était fait pour être général et qui est dans la débine, acculé dans un trou de pays où la fortune n'a pas de quoi se promener. Il est obligé de rester sur une chaise toute une journée à la municipalité. Pour gagner quoi? 600 misérables francs, la belle poussée. Et vous, qui avez 659 000 francs de placés, 60 000 francs de rente et qui, grâce à moi, ne dépensez pas plus de 1000 écus par an, tout compris, même mes jupes, enfin tout. Vous ne pensez pas lui offrir un loger ici où tout le deuxième est vide? Vous aimez mieux que les souris et les rats, ils dansent plutôt que d'y mettre un humain, enfin un garçon que votre père a toujours pris pour son fils. Voulez-vous savoir ce que vous êtes? Je vais vous le dire, vous êtes un fratricide. Après cela, je sais bien pourquoi. Vous avez vu que je lui portais intérêt et ça vous chicane. Quoique vous paraissiez bête, vous avez plus de malice que les plus malicieux dans ce que vous êtes. Eh bien oui, je lui porte intérêt, et un vif encore. Mais Flore, oh, un peu de mes Flore qui tiennent. Vous pouvez bien en chercher une autre Flore, si vous en trouvez une. Car je veux que ce verre de vin me serve de poison si je ne laisse pas là votre barrique de maison. Je ne vous aurai, Dieu merci, rien coûté pendant les 12 ans que j'y suis resté. Vous aurez eu de l'agrément à bon marché. Partout ailleurs, j'aurais bien gagné ma vie à tout faire comme ici, savonner, repasser, veiller aux lessives, aller au marché, faire la cuisine, prendre vos intérêts en toutes choses, m'exterminer du matin au soir. Eh bien, voilà ma récompense. Mais Flore, oui, Flore, vous en aurez des Flore. À 51 ans que vous avez et que vous vous portez très mal, et que vous baissez, que c'en est effrayant, je le sais bien. Puis avec ça, que vous n'êtes pas amusant. Mais Flore, oh, laissez-moi tranquille. Elle sortit en fermant la porte avec une violence qui fit retentir la maison et parut l'ébranler sur ses fondements. Jean-Jacques Rouget ouvrit tout doucement la porte et alla plus doucement encore dans la cuisine où Flore grommelait toujours. Mais Flore, dit ce bouton, voilà la première nouvelle que j'ai de ton désir. Comment sais-tu si je le veux ou si je ne le veux pas? D'abord, reprit-elle, il y a besoin d'un homme dans la maison. On sait que vous avez les 10, des 15, des 20 000 francs. Et si l'on venait vous voler, on vous assassinerait. Moi, je ne me soucie pas du tout de me réveiller un beau matin coupé en 4 morceaux, comme on a fait de cette pauvre servante qui a eu la bêtise de défendre son maître. Eh bien, si l'on nous voit chez nous un homme brave comme César et qui ne se mouche pas du pied, au max ça valerait 3 valeurs, le temps de le dire, eh bien, je dormirai plus tranquille. On vous dira peut-être des bêtises, que je l'aime par-ci, que je l'adore par-là. Savez-vous ce que vous direz? Eh bien, vous répondrez que vous le savez, mais que votre père vous avait recommandé son pauvre Max à son lit de mort. Tout le monde se taira, car les pavés d'Issoudun vous diront qu'il lui payait sa pension au collège. Na! Voilà 9 ans que je mange votre pain. Oh, Flore, oh, il y en a eu par la ville plus d'un qui m'a fait la cour d'un... On m'offrait les chaînes d'or par-ci, montre par-là. Ma petite Flore, si tu veux quitter cet imbécile de père Rouget, car voilà ce qu'on me disait de vous. Moi, le quitter, ah, bien plus souvent, un innocent comme ça, mais que qui deviendrais-je, ai-je toujours répondu. Non, non, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Oui, Flore, je n'ai que toi au monde et je suis trop heureux. Si ça te fait plaisir, mon enfant, eh bien, nous aurons ici Max en gilet, il mangera avec nous. Oh, parbleu, je l'espère bien. Là, là, ne te fâche pas. Quand il y en a pour un, il y en a bien pour deux, répondit-elle en riant. Mais si vous êtes gentil, savez-vous ce que vous ferez, mon bichon? Vous irez vous promener aux environs de la mairie à 4 heures, et vous vous arrangerez pour rencontrer monsieur le commandant Gilet, que vous inviterez à dîner. S'il fait des façons, vous lui direz que ça me fera plaisir. Il est trop galant pour refuser. Pour l'heure, entre la poire et le fromage, s'il vous parle de ses malheurs, des pontons, que vous auriez bien l'esprit de le mettre là-dessus, alors vous lui offrirez de demeurer ici. S'il trouve quelque chose à redire, soyez tranquille, je saurai bien le déterminer. En se promenant avec lenteur sur le boulevard Baron, le célibataire réfléchit autant qu'il le pouvait à cet événement. S'il se séparait de Flore, à cette idée il y voyait plus clair. Quelle autre femme retrouverait-il ? Se marier, à son âge, il serait épousé pour sa fortune et encore plus cruellement exploité par sa femme légitime que par Flore. D'ailleurs, la pensée d'être privé de cette tendresse fut-elle illusoire, lui causait une horrible angoisse. Il fut donc pour le commandant Gilet aussi charmant qu'il pouvait l'être. Ainsi que Flore le désirait, l'invitation fut faite devant témoin afin de ménager l'honneur de Maxence. La réconciliation se fit entre Flore et son maître. Mais depuis cette journée, Jean-Jacques aperçut des nuances qui prouvaient un changement complet dans l'affection de la rabouilleuse. Flore Brasier se plaignit pendant une quinzaine de jours chez les fournisseurs, au marché, près des commères avec lesquels elle bavardait, de la tyrannie de M. Rouget, qui s'avisait de prendre son soi-disant frère naturel chez lui. Mais personne ne fut la dupe de cette comédie, et Flore fut regardée comme une créature excessivement fine et retorse. Le père Rouget se trouva très heureux de l'impatronisation de Maxologie, car il est une personne qui fut au petit soin pour lui, mais sans servilité cependant. Gilet causait, politiquait et se promenait quelquefois avec le père Rouget. Dès que l'officier fut installé, Flore ne voulut plus être cuisinière. La cuisine, dit-elle, lui gâtait les mains. Sur le désir du grand maître de l'ordre, la cognette indiqua l'une de ses parentes, une vieille fille, dont le maître, un curé, venait de mourir sans rien lui laisser, une excellente cuisinière qui serait dévouée à la vie et à la mort à Flore et à Max. D'ailleurs, la cognette promit à sa parente, au nom de ses deux puissances, une rente de 300 livres après 10 ans de bons loyaux, discrets et propres services. Âgée de 60 ans, la Védie était remarquable par une figure ravagée par la petite vérole et d'une laideur convenable. Après l'entrée en fonction de la Védie, la rabouilleuse devint Madame Brasier. Elle porta des corsets, elle eut des robes en soie, en belles étoffes de laine et de coton suivant les saisons. Elle eut des collerettes de dentelle, se chaussa de brodequins et se maintint dans une élégance et une richesse de mise qui la rajeunit. Elle fut comme un diamant brut taillé, moulé par le bijoutier pour valoir tout son prix. Elle voulait faire honneur à Max. À la fin de la première année, en 1817, elle fit venir de Bourges un cheval dit anglais pour le pauvre commandant ennuyé de se promener à pied. Max avait racolé dans les environs un ancien lancier de la garde impériale, un Polonais nommé Kouski, tombé dans la misère, qui ne demanda pas mieux que d'entrer chez M. Rouget en qualité de domestique du commandant. Max fut l'idole de Kouski, surtout après le duel des trois royalistes. À condamné de 1817, la maison du père Rouget fut donc composée de 5 personnes, dont 3 maîtres, et la dépendance s'éleva environ à 8 000 francs par an. Au moment où Madame Rideau revenait à Issoudun pour, selon l'expression de Maître Desroches, sauver une succession si sérieusement compromise, le père Rouget était arrivé par degrés à un état quasi végétatif. D'abord, dès l'impatronisation de Max, Mademoiselle Brasier mit la table sur un pied épiscopal. Rouget, jeté dans la voie de la bonne chère, mangea toujours davantage, emporté par les excellents plats que faisait la Védie. Malgré cette exquise et abondante nourriture, il engraissa peu. De jour en jour, il s'affaissa comme un homme fatigué par ses digestions, peut-être, et ses yeux se cernèrent fortement. Mais si, pendant ses promenades, des bourgeois l'interrogeaient sur sa santé, jamais, disait-il, ne s'était mieux porté. Comme il avait toujours passé pour être d'une intelligence excessivement bornée, on ne remarqua point la dépression constante de ses facultés. Son amour pour Flore était le seul sentiment qui le faisait vivre. Il n'existait que par elle. Sa faiblesse avec elle n'avait point alors de borne. Il obéissait à un regard. Il guettait les mouvements de cette créature comme un chien guette les moindres gestes de son maître. Enfin, selon l'expression de Madame Hochon, à 57 ans, le père Rouget semblait être plus vieux que M. Hochon, alors octogénaire. Chacun imagine avec raison que l'appartement de Max était digne de ce charmant garçon. En effet, en 6 ans, le commandement avait d'année en année perfectionné le confort, embelli les moindres détails de son logement, autant pour lui-même que pour Flore. Mais ce n'était que le confort d'issoudun. Des carreaux mis en couleur, des papiers de tenture assez élégants, des meubles en acajou, des glaces à bordure dorée, des rideaux en mousseline ornés de bandes rouges, un lit à couronne et à rideaux, disposés comme les arrangent les tapissiers de province, pour une riche mariée, et qui paraît alors le comble de la magnificence, mais qui se voit dans les vulgaires gravures de mode, et si commun que les détaillants de Paris n'en veulent plus pour leurs noces. Il y avait, chose monstrueuse, et qui fit causer dans Issoudun, des nattes de jonc dans l'escalier, sans doute pour assourdir le bruit des pas. Aussi, en rentrant au petit jour, Max n'avait-il éveillé personne. Rouget ne soupçonna jamais la complicité de son hôte dans les œuvres nocturnes des chevaliers de la désœuvrance. Vers les 8 heures, Flore, vêtue d'une robe de chambre en jolie étoffe de coton à 1000 raies roses, coiffée d'un bonnet de dentelle, les pieds dans des pantoufles fourrées, ouvrit doucement la chambre de Max, mais en le voyant endormi, elle resta debout devant le lit. Il est rentré si tard, dit-elle, à 3h30. Il faut avoir un fier tempérament pour résister à ces amusements-là. Est-il fort, cet amour d'homme? Mais qu'auront-ils fait cette nuit? « Tiens, te voilà, ma petite Flore, » dit Max en s'éveillant à la manière des militaires, accoutumés par les événements de la guerre à trouver leurs idées au complet et leur sang-froid au réveil, quelque subite qu'il soit. « Oh, non, tu dors, je m'en vais. »« Non, reste, il y a des choses graves. »« Vous avez fait quelques sottises cette nuit. » Ah, ouais, oh, il s'agit de nous et de cette vieille bête. Ah, ça, tu m'avais jamais parlé de sa famille. Eh bien, elle arrive ici, la famille, sans doute pour nous tailler les croupières. Oh, je m'en vais la secouer, dit Flore. Mademoiselle Brasier, dit gravement Max, il s'agit de choses trop sérieuses pour y aller à l'étourdi. « Envoie-moi mon café, je le prendrai dans mon lit, où je vais songer à la conduite que nous devons tenir. Reviens à 9 heures, nous causerons. En attendant, fais comme si tu ne savais rien. » Saisie par cette nouvelle, Flore laissa Max et alla lui préparer son café. Mais un quart d'heure après, Baruch entra précipitamment et dit au grand maître « Fario, cherche sa brouette !» En 5 minutes, Max fut habillé, descendit, et tout en ayant l'air de flâner, Il gagna le bas de la tour où il vit un rassemblement assez considérable. « Qu'est-ce ? » fit Max en perçant la foule et pénétrant jusqu'à l'espagnol. Fario, petit homme sec, était d'une laideur comparable à celle d'un grand d'Espagne. Des yeux de feu, comme percés avec une vrille et très rapprochés du nez, lui se fait passer à Naples pour un jeteur de sort. Ce petit homme paraissait doux parce qu'il était grave, calme, lent dans ses mouvements. Aussi le nommait-on le bonhomme Fario, mais son teint couleur de pain d'épices et sa douceur déguisaient aux ignorants et annonçaient à l'observateur le caractère à demi mauritain d'un paysan de Grenade que rien n'avait encore fait sortir de son flegme et de sa paresse. « Mais êtes-vous sûr, lui dit Max, après avoir écouté les doléances du marchand de grains, d'avoir amené votre voiture ? Car il n'y a, Dieu merci, pas de voleur, issoudun. Mais elle était là. Oh, si le cheval est resté attelé, ne peut-il pas avoir emmené la voiture ? Mais le voilà mon cheval, dit Fario, en montrant sa bête harnachée à 30 pas de là. Max alla gravement à l'endroit où se trouvait le cheval, afin de pouvoir, en levant les yeux, voir le pied de la tour, car le rassemblement était au bas. Tout le monde suivit Max et ce que le drôle voulait. Quelqu'un a-t-il mis par distraction une voiture dans ses poches ? Cria François. Allons, fouillez-vous, dit Baruch. Des éclats de rire partirent de tous côtés. Fario jura. Chez un Espagnol, des jurons annoncent le dernier degré de la colère. « Est-elle légère, ta voiture ?» dit Max. « Légère !» répondit Fario. « Ah, si ceux qui rient de moi l'avaient sur les pieds, leur corps leur ferait plus mal. »« Il faut cependant qu'elle le soit diablement, » répondit Max en montrant la tour, « car elle a volé sur la butte. » Ah, c'est beau. Tous les yeux se levèrent, et il y eut en un instant comme une émeute au marché. Chacun se montrait cette voiture fée. Toutes les langues étaient en mouvement. Le diable protège les aubergistes qui se donnent tous, dit le fils Godet au marchand stupéfait. Et il a voulu t'apprendre à pas laisser traîner de charrettes dans les rues au lieu de les remiser à l'auberge. À cette apostrophe, des huées partirent de la foule, car Fario passait pour avare. « Allons, mon brave homme, » dit Max, « il ne faut pas perdre courage. Nous allons monter à la tour pour savoir comment ta brouette est venue là. Nom d'un canon, nous te donnerons un coup de main. Tu viens, Baruch ?»« Toi, » dit-il à François, lui parlant dans l'oreille, « fais ranger le monde et qu'il n'y ait personne au bas de la butte quand tu nous y verras. » Fario, Max, Baruch et trois autres chevaliers montèrent à la tour. Pendant cette ascension assez périlleuse, Max constatait avec Fario qu'il n'existait ni dégâts ni traces qui indiquassent le passage de la charrette. Aussi Fario croyait-il à quelque sortilège, il avait la tête perdue. Arrivés tous au sommet, en y examinant les choses, le fait parut sérieusement impossible. « Mais comment que Jean allons la descendre ?» dit l'Espagnol, dont les petits yeux noirs exprimaient pour la première fois l'épouvante et dont la figure jaune et creuse, qui paraissait ne devoir jamais changer de couleur, pâlit. « Comment ?» dit Max, « mais cela ne me paraît pas difficile. » Et profitant de la stupéfaction du marchand de grains, il mania de ses bras robustes la charrette par les deux brancards, de manière à la lancer. Puis au moment où elle devait lui échapper, il cria d'une voix tonnante « Gare là-dessous !» Mais il ne pouvait y avoir aucun inconvénient. Le rassemblement, averti par Baruch et pris de curiosité, s'était retiré sur la place à la distance nécessaire pour voir ce qui se passerait sur la butte. La charrette se brisa de la manière la plus pittoresque en un nombre infini de morceaux. « Mais la voilà descendue !» dit Baruch. « Oh, brigand canaille !» s'écria Fario. « C'est peut-être bien vous autres qui l'avez montée ici !» Max, Baruch et leurs trois compagnons se mirent à rire des injures de l'Espagnol. « On a voulu te rendre service !» dit froidement Max. « J'ai failli, en manœuvrant ta donnée charrette, être emporté avec elle, et voilà comment tu nous remercies. Mais de quel pays es-tu donc ?»« Je suis d'un pays où on ne pardonne pas !» répliqua Fario, qui tremblait de rage. « Ma charrette vous servira de cabriolet pour aller au diable !»« Ah bon, hein ?» dit-il en revenant doux comme un hanneton, « que vous ne vouliez me la remplacer par une neuve !»« Parlons de cela !» dit Max en descendant. Quand ils furent au bas de la tour et en rejoignant les premiers groupes de rieurs, Max prit Fario par un bouton de sa veste et lui dit « « Oui, mon brave père Fario, je te ferai cadeau d'une magnifique charrette si tu veux me donner 250 francs. Mais je ne garantis pas qu'elle sera comme celle-ci faite au tour. » Cette dernière plaisanterie trouva Fario froid, comme s'il s'agissait de conclure un marché. « Dame, répliqua-t-il, vous me donneriez de quoi me remplacer ma pauvre charrette ?» que vous n'auriez jamais mieux employé l'argent du père Rouget. » Max pâlit. Il leva son redoutable poing sur Fario. Mais Baruch, qui savait qu'un pareil coup ne frapperait pas seulement sur l'Espagnol, enleva Fario comme une plume et dit tout bas à Max, « Ne va pas faire des bêtises !» Le commandant, rappelé à l'ordre, se mit à rire et répondit à Fario « Si je t'ai par mégarde fracassé ta charrette, tu essaies de me calomnier, donc nous sommes quittes. »« Pas encore, » dit en murmurant Fario, « mais je suis bien aise de savoir ce que valait ma charrette. »« Ah, Max, tu trouves à qui parler, » dit un témoin de cette scène, qui n'appartenait pas à l'ordre de la désœuvrance. Adieu, monsieur Gilet, je ne vous remercie pas encore de votre coup de main, fit le marchand de grains, en enfourchant son cheval et disparaissant au milieu d'un hourra. On vous gardera le fer des cercles, lui cria un charron venu pour contempler l'effet de cette chute. Un des limons s'était planté droit comme un arbre. Max restait pâle et pensif, atteint au cœur par la phrase de l'Espagnol. On parla pendant 5 jours à Issoudun de la charrette à Fario. Elle était destinée à voyager, comme dit le fils Godet, car elle fit le tour du Berry, où l'on se raconta les plaisanteries de Max et de Baruch. Aussi, ce qui fut le plus sensible à l'Espagnol, il était encore 8 jours après l'événement, la fable de 3 départements et le sujet de toutes les disettes. Max et la rabouilleuse, à propos des terribles réponses du vindicatif espagnol, furent aussi le sujet de 1000 commentaires qu'on se disait à l'oreille dans Issoudun, mais tout bas, à Bourges, à Vatan, à Vierzon et à Châteauroux. Maxence Gilet connaissait assez le pays pour deviner combien ses propos devaient être envenimés. Ah, on ne pourra pas les empêcher de causer, pensait-il. Ah, j'ai fait là un mauvais coup. Eh bien, Max, lui dit François en lui prenant le bras. Attention, ils arrivent ce soir. Qui ? Mais les Bridaux. Ma grand-mère vient de recevoir une lettre de sa filleule. « Écoute, mon petit, lui dit Max à l'oreille, j'ai réfléchi profondément à cette affaire. Flore ni moi, nous ne devons pas paraître en vouloir aux Bridaux. Si les héritiers quittent Issoudun, c'est vous autres, les Hochon, qui devez les renvoyer. Examine bien ces Parisiens Et quand je les aurai toisés, demain chez la cognette, nous verrons ce que nous pourrons leur faire et comment les mettre mal avec ton grand-père. L'Espagnol a trouvé le défaut de la cuirasse à Max, dit Baruch à son cousin François, en rentrant chez M. Hochon et regardant leur ami qui rentrait chez lui. Pendant que Max faisait son coup, Flore, malgré les recommandations de son commensal, n'avait pu contenir sa colère. Et sans savoir si elle en servait ou s'il en dérangeait les plans, elle éclatait contre le pauvre célibataire. Quand Jean-Jacques encourait la colère de sa bonne, on lui supprimait tout d'un coup les soins et les chatteries vulgaires qui faisaient sa joie. Enfin, Flore mettait son maître en pénitence. Ainsi, plus de ces petits mots d'affection dont elle ornait la conversation avec des tonalités différentes et des regards plus ou moins tendres. « Mon petit chat, mon gros bichon, mon bibi, mon chou, mon raf, etc. » Un « vous » sec et froid, ironiquement respectueux, entrait alors dans le cœur du malheureux garçon comme une lame de couteau. Ce « vous » servait de déclaration de guerre. Puis au lieu d'assister au lever du bonhomme, de lui donner ses affaires, de prévoir ses désirs, de le regarder avec cette espèce d'admiration que toutes les femmes savent exprimer, et qui plus elle est grossière, plus elle charme, en lui disant « Vous êtes frais comme une rose. Allons, vous vous portez à merveille. Que tu es beau, vieux Jean !» Enfin, au lieu de le régaler, pendant son lever des drôleries et des gaudrioles qui l'amusaient, Flore le laissait s'habiller tout seul. S'il appelait la rabouilleuse, elle répondait au bas de l'escalier « Hé, je ne peux pas tout faire à la fois, veillez à votre déjeuner et vous servir dans votre chambre. N'êtes-vous pas assez grand garçon pour vous habiller tout seul ?»« Mais mon Dieu, que lui ai-je fait ?» se demanda le vieillard en recevant une de ses rebuffades au moment où il demanda de l'eau pour se faire la barbe. « Védi, montez de l'eau chaude à monsieur !» cria Flore. « Védi !» fit le bonhomme hébété par l'appréhension de la colère qui pesait sur lui. « Védi, mais qu'est donc madame ce matin ?» Flore Brasier se faisait appeler madame par son maître, par Védi, par Kouski et par Max. Ben, elle aurait, ce qui paraît, appris quelque chose de vous qui serait pas beau, répondit Védi en prenant un air profondément affecté. Vous avez tort, monsieur. Tenez, je suis qu'une pauvre servante, et vous pouvez me dire que je n'ai que de faire de fourrer le nez dans vos affaires. Mais vous chercheriez parmi toutes les femmes de la terre, comme ce roi de l'écriture sainte, là, vous ne trouveriez pas la pareille à madame. Vous devriez baiser la marque de ses pas ou qu'elle passe. Un homme, si vous lui donnez du chagrin, c'est vous percer le cœur à vous-même. Enfin, elle en avait les larmes aux yeux. Védi laissa le pauvre homme atterré. Il tomba sur un fauteuil, regarda dans l'espace comme un fou mélancolique et oublia de faire sa barbe. Ses alternatives de tendresse et de froideur opérait sur cet être faible qui ne vivait que par la fibre amoureuse, les effets morbides produits sur le corps par le passage subit d'une chaleur tropicale à un froid polaire. C'était autant de pleurésie morale qui l'usait comme autant de maladies. Flore, seule au monde, pouvait agir ainsi sur lui, car uniquement pour elle il était aussi bon qu'il était niais. « Eh bien, vous n'avez pas fait votre barbe ?» dit-elle en se montrant sur la porte. Elle causa le plus violent sursaut au père Rouget, qui, de pâle et d'effet, devint rouge pour un moment sans oser se plaindre de cet assaut. « Votre déjeuner vous attend, mais vous pouvez bien descendre en robe de chambre et en pantoufles, allez, vous déjeunerez seul. » Et sans attendre de réponse, elle disparut. Laisser le bonhomme déjeuner seul était celle de ses pénitences qui lui causait le plus de chagrin. Il aimait à causer en mangeant. En arrivant au bas de l'escalier, Rouget fut pris par une quinte car l'émotion avait réveillé son catarrhe. Tous, tous, dit Flore dans la cuisine, sans s'inquiéter d'être ou non entendu par son maître. Pardez, le vieux scélérat est assez fort pour résister sans qu'on s'inquiète de lui. S'il touche jamais son homme, celui-là, ce sera qu'après nous. Telles étaient les aménités que la rabouilleuse adressait à Rouget en ces moments de colère. Le pauvre homme s'assit dans une profonde tristesse au milieu de la salle, au coin de la table, et regarda ses vieux meubles, ses vieux tableaux d'un air désolé. « Vous auriez bien pu mettre une cravate, » dit Flore en entrant. « Croyez-vous que c'est agréable d'avoir un cou comme le vôtre, qui est plus rouge, plus ridé que celui d'un lindon ?»« Mais que vous ai-je fait ?» demanda-t-il en levant ses gros yeux verts clairs pleins de larmes vers Flore, en affrontant sa mine froide. « Ce que vous avez fait, » dit-elle, « vous le savez pas. Oh, v'là un hypocrite. Votre sœur Agathe, qui est votre sœur comme je suis celle de la tour d'Issoudun, à entendre votre père, et qui vous est rien du tout, arrive de Paris avec son fils, ce méchant peintre de dessous, et ils viennent vous voir. Ma sœur et mes neveux viennent à Issoudun ?» dit-il tout stupéfait. Oui, jouez l'étonné pour me faire croire que vous ne les avez pas écrit de venir. Cette malice cousue de fil blanc. Soyez tranquille, nous ne troublerons point vos Parisiens, car avant qu'il ait mis les pieds ici, les nôtres y seront plus de poussière. Max et moi, nous serons partis pour ne jamais revenir. Quant à votre testament, je le déchirerai en 4 morceaux à votre nez et à votre barbe. Entendez-vous ? Vous laisserez votre bien à votre famille, puisque nous ne sommes pas votre famille. Après, vous verrez si vous serez aimé par vous-même, par des gens qui ne vous ont pas vu depuis 30 ans, qui vous ont même jamais vu. C'est pas votre sœur qui me remplacera, une dévote à 36 carats. « N'est-ce que cela, ma petite Flore ?» dit le vieillard. « Je ne recevrai ni ma sœur, ni mes neveux. Je te jure que voilà la première nouvelle que j'ai de leur arrivée. Et c'est un coup monté par Madame Auchon, la vieille dévote. » Max, qui put entendre la réponse du père Rouget, se montra tout à coup en disant d'un ton de maître « Qu'y a-t-il ?» « Mon bon Max, » reprit le vieillard heureux d'acheter la protection du soldat, qui par une confession faite avec Flore prenait toujours le parti de Rouget, « je jure, parce qu'il y a le plus sacré que je viens d'apprendre la nouvelle, je n'ai jamais écrit à ma sœur. Mon père m'a fait promettre de ne rien lui laisser de mon bien et de le donner plutôt à l'église. Enfin, je ne recevrai ni ma sœur Agathe ni ses fils. » « Votre père avait tort, mon cher Jean-Jacques, et madame a bien plus en tort encore, » répondit Max. « Votre père avait ses raisons. Il est mort, sa haine doit mourir avec lui. Votre sœur est votre sœur, vos neveux sont vos neveux. Vous vous devez à vous-même de les bien accueillir et à nous aussi. Que dirait-on dans Issoudun ? Si, au seul tonnerre, j'en ai assez sur le dos. » Il manquerait plus que de m'entendre dire que nous vous séquestrons, que vous n'êtes pas libre, que vous en avons émimé contre vos héritiers et que nous captons votre succession. Oh, que le diable m'emporte si je ne déserte pas le camp à la seconde calomnie. Et c'est assez d'une. Mais les deux jeunes, non. Flore, redevenue douce comme une hermine, aida la védie à mettre le couvert. Le père Rouget, plein d'admiration pour Max, le prit par les mains, l'emmena dans l'embrasure d'une des croisées, et là lui dit à voix basse. « Ah, Max, j'aurais un fils, je l'aimerais pas autant que je t'aime. Et Fleur avait raison, à vous deux, vous êtes ma famille. Tu as de l'honneur, Max, et tout ce que tu viens de dire est très bien. Vous devez fêter votre sœur et votre neveu, mais ne rien changer à vos dispositions, lui dit alors Max en l'interrompant. Vous satisferez ainsi votre père et le monde. Eh bien, mes chers petits amours, s'écria Flore d'un ton gai, le Salbi va se refroidir. Tiens, mon vieux rat, voilà une aile, dit-elle en souriant à Jacques Rouget. À ce mot, la figure chevaline du bonhomme perdit ses teintes cadavéreuses. Il eut sur ses lèvres pendantes un sourire de teriyaki. Mais la toux le reprit, car le bonheur de rentrer en grâce lui donnait une émotion aussi violente que celle d'être en pénitence. Flore se leva, s'arracha de dessus les épaules un petit châle de cachemire et le mit en cravate au tout cou du vieillard, en lui disant « Mais c'est bête de se faire du mal comme ça pour des riens. Tenez, vieil imbécile, ça vous fera du bien. C'était sur mon cœur. » Quelle bonne créature, dit Rouget à Max, pendant que Flore alla chercher un bonnet de velours noir pour en couvrir la tête presque chauve du célibataire. Ah, aussi bonne que belle, répondit Max, mais elle est vive, comme tous ceux qui ont le cœur sur la main. Peut-être blâmera-t-on la crudité de cette peinture, et trouvera-t-on les éclats du caractère de la rabouilleuse empreint de ce vrai que le peintre doit laisser dans l'ombre. Eh bien, cette scène, 100 fois recommencée avec d'épouvantables variantes, est, dans sa forme grossière et dans son horrible véracité, le type de celle que jouent toutes les femmes, à quelque bâton de l'échelle sociale qu'elles soient penchées, quand un intérêt quelconque les a divertis de leur ligne d'obéissance et qu'elles ont saisi le pouvoir. Comme chez les grands politiques, à leurs yeux, tous les moyens sont légitimés par la fin. Entre Flore Brazier et la duchesse, entre la duchesse et la plus riche bourgeoise, entre la bourgeoise et la femme la plus splendidement entretenue, il n'y a de différence que celle due à l'éducation qu'elles ont reçue et aux milieux où elles vivent. Les bouderies de la grande dame remplacent les violences de la rabouilleuse. À tout étage, les amères plaisanteries, des moqueries spirituelles, un froid dédain, des plaintes hypocrites, de fausses querelles obtiennent le même succès que les propos populaciers de cette madame Everard d'Issoudun. Max se mit à raconter si drôlement l'histoire de Fario qu'il fit rire le bonhomme. Védi et Kouski, venus pour entendre ce récit, éclatèrent dans le couloir. Quant à Flore, elle fut prise du fou rire. Après le déjeuner, pendant que Jean-Jacques lisait les journaux, car on s'était abonné au Constitutionnel et à la Pandore, Max emmena Flore chez lui. Es-tu sûr que, depuis qu'il t'a institué son héritière, il n'a pas fait quelque autre testament ? Il n'a pas de quoi écrire, répondit-elle. Ben, il a pu en dicter un à quelque notaire, fit Max. S'il ne l'a pas fait, il faut prévoir ce cas-là. Donc accueillons à merveille les bridaux, mais tâchons de réaliser et promptement tous les placements hypothécaires. Nos notaires ne demanderont pas mieux que de faire des transports. Ils y trouvent à boire et à manger. Les rentes montent tous les jours. On va conquérir l'Espagne et délivrer Fernand VII de ses Cortés. Ainsi, l'année prochaine, les rentes dépasseront peut-être le père. C'est donc une bonne affaire que de mettre les 750 000 francs du bonhomme sur le grand livre à 89. Seulement, essaie de les faire mettre en ton nom. Ce sera toujours ça de sauvé. « Oh, une fameuse idée !» dit Flore. « Et comme on aura 50 000 francs de rente pour 890 000 francs, Il faudrait lui faire emprunter 140 000 francs pour 2 ans, à rendre par moitié en 2 ans. Nous toucherons 100 000 francs de Paris et 90 ici, nous ne risquons donc rien. Oh, sans toi, mon beau Max, que serions-nous devenus ? Dit-elle. Oh, demain soir, chez la Codiette, après avoir vu les Parisiens, je trouverai les moyens de les faire congédier par les Hochon eux-mêmes. Ah, tu de l'esprit, mon ange. Oh, tiens, tu es un amour d'homme.